Merci d'écouter RFI, il est 23h à Brasilia, 4h du matin à Goma, 1h de moins ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
À plus de 40 ans de prison, c'est la peine à laquelle s'expose Jair Bolsonaro. L'ancien président brésilien sera jugé pour tentative de coup d'État. Nous entendrons sa réaction à la décision historique de la Cour suprême brésilienne. Au Soudan du Sud, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée. L'ONU s'alarme du risque de voir le pays retomber dans un conflit généralisé. À la une également, la suite du procès de Gérard Depardieu à Paris. Témoignages de plaignantes qui dénoncent les agressions sexuelles de l'acteur se sont succédés, mais nous le verrons, Gérard Depardieu a pu également compter sur le soutien appuyé de Fanny Ardant. Et puis, nous parlerons tennis en fin d'édition et de la tornade Alexandra Ehala qui continue de faire des ravages au WTA 1000 de Miami. Un ancien président bientôt sur le banc des accusés. Jair Bolsonaro sera jugé pour tentative de coup d'État. Une décision historique rendue ce mercredi par la Cour suprême brésilienne. Jair Bolsonaro est notamment accusé d'avoir pris la tête d'une organisation criminelle devant le maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2022. Alors qu'il encourt une peine cumulée pouvant dépasser les 40 ans de prison, l'ancien chef d'État se dit victime de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire. Du Brésil.
On dirait qu'ils ont quelque chose de personnel contre moi. Ces accusations sont très graves et infondées, et je parle sérieusement. Ça va prendre du temps, mais j'aurai des nouvelles pour vous. Le 8 janvier, j'étais aux États-Unis. L'un des 5 chefs d'accusation, c'est destruction de propriété. Alors, à moins d'avoir eu recours à la télépathie, ils ont fait des recherches à grande échelle, mettant sans dessus-dessous la vie de tout le monde. 3 perquisitions et des saisies ont eu lieu à mon domicile et ils n'ont rien trouvé contre moi. Les commandants de l'armée ne se lanceraient jamais dans une aventure pareille. Discuter, comme le disait mon chef d'état-major de l'époque, discuter des hypothèses concernant des dispositions constitutionnelles, ce n'est pas un crime.
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Un tête-à-tête hier soir entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron avant un sommet ce jeudi. Le président ukrainien est donc déjà à Paris où se retrouveront dans quelques heures une trentaine de pays alliés de Kiev pour une réunion sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky affirme que l'armée russe prépare une nouvelle offensive prévue au printemps, Emmanuel Macron a lui annoncé une aide supplémentaire à Kiev pour 2 milliards d'euros et accuser la Russie de vouloir la guerre. La guerre, justement, sur le terrain et la Russie et l'Ukraine qui s'accusent mutuellement de vouloir faire échouer un accord qui doit déboucher sous condition à une trêve en mer Noire et notamment à un moratoire sur les frappes visant les sites énergétiques. Cette semaine encore, Agnieszka Kumor, Kiev visait des infrastructures pétrolières dans la région russe de Krasnodar.
C'est un dépôt pétrolier russe desservant l'oléoduc de la Caspienne qui a fait l'objet de cette dernière attaque. L'assaut de drones ukrainiens ayant provoqué un important incendie. Ce terminal pétrolier de Kafkaskaya est situé dans la région de Krasnodar, à moins de 200 km de la côte de la mer Noire. Cet immense dépôt reçoit du brut léger des producteurs russes acheminés par le rail. Kafkaskaya sert de transbordement et de stockage de pétrole et traite plus de 28 000 barils par jour de pétrole russe destiné aux marchés internationaux. La direction de l'oléoduc de la Caspienne a indiqué que les travaux de réparation prendraient 2 mois et que les opérations de la station devraient être arrêtées. Au mois de mars, ce sont, selon Bloomberg, entre 3 et 6 pétroliers par semaine qui ont quitté la Russie via la mer Noire, soit entre 10 et 20% du brut exporté par Moscou par cette voie.
À précision signée Agnieszka Kumor, alors qu'on apprend cette nuit que la Corée du Nord a envoyé 3000 soldats supplémentaires cette année en Russie. Annonce de Séoul qui avait déjà envoyé 11 000 hommes se battre aux côtés des soldats russes. Hier, mercredi 26 mars, cela faisait exactement 2 mois que la ville de Goma est passée sous le contrôle du groupe rebelle AFC M23. Depuis, toutes les banques commerciales sont fermées sur instruction des autorités de Kinshasa. Conséquence, dans cette ville de plus d'1 million d'habitants, les guichets sont inaccessibles, les devises se font rares et l'économie locale est fortement perturbée. Alors que certains se tournent donc vers l'étranger, notamment au Rwanda voisin, l'AFC M23 veut créer son propre système financier. Explication de Patient Liguedi.
La FCM23 prévoit de mettre en place une structure parallèle baptisée Autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. D'après les informations de RFI, cette structure est déjà créée sur papier. Elle devrait jouer le rôle d'une banque centrale dans les zones sous contrôle de la FCM23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali souhaite également réactiver la CADECO, une institution financière publique congolaise considérée par plusieurs experts comme quasiment à l'arrêt. La rébellion a nommé une direction parallèle avec l'objectif d'en faire la principale banque de la zone sous son contrôle. Les recettes fiscales collectées par l'administration de la FCM23 devraient y être versés. Des consignes ont été données aux changeurs de monnaie et aux opérateurs économiques locaux pour ouvrir des comptes au sein de cette structure. Mais ce système se heurte à plusieurs obstacles majeurs selon les experts contactés par RFI, notamment l'absence de connexion aux banques de correspondance internationale et les restrictions du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. De son côté, la FCM23 envisage de s'appuyer sur des pays voisins, principalement le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Mais une question se pose, ce projet peut-il vraiment voir le jour ? Tout dépendra, répond un expert, du degré d'isolement international de l'FCM23 et de la réaction des pays et banques de la région.
Sur le continent toujours, le premier vice-président sud-soudanais Riek Machar a été placé en résidence surveillée ce mercredi dans la soirée. Les conditions exactes de cette détention ne sont pas connues, mais ce nouveau développement marque une nouvelle escalade vers un possible retour à la guerre civile, s'inquiète l'ONU. RFI, 3 heures passées de 6 minutes à Paris, en France, où l'on assiste à la suite du procès de Gérard Depardieu. Au 3e jour de son procès pour agression sexuelle présumée sur 2 femmes en 2021, l'acteur français a reconnu être vulgaire, grossier, ordurier, mais nie en bloc tout attouchement. Les plaignantes se sont-elles succédées à la barre hier et outre les témoignages accablants, Gérard Depardieu a pu toutefois compter sur le soutien appuyé de Fanny Ardant. Marie Cazadebeg a assisté au témoignage de l'actrice française aux antipodes de ceux avancés par les plaignantes.
Dans une robe noire, stricte, à col blanc, Fanny Ardant se présente à la barre. L'actrice prévient le tribunal, elle veut élargir les débats. Gérard Depardieu est un ami depuis toujours. Elle fait l'éloge d'un acteur d'exception, mais tout en ambiguïté. C'est un génie extravagant, insoumis, dangereux. Tout le monde peut s'identifier à lui parce qu'il n'est pas parfait. Elle fait allusion à une société qui change, où certaines choses tolérées sont devenues intolérables. Fanny Ardant est fidèle à sa réputation théâtrale. Mais le président du tribunal lui rappelle que dans cette salle, il n'est pas question de morale, mais de droit. Sur les faits, elle dit n'avoir rien vu, rien entendu de choquant sur le tournage. Des gros mots, oui, mais est-ce encore permis d'en dire ? Il faut du courage, clame-t-elle, pour défendre l'acteur aujourd'hui. L'un des gardes du corps de Gérard Depardieu confirme, il dit avoir perdu des contacts professionnels depuis le début de cette affaire. C'est bien vu maintenant de taper sur Gérard Depardieu, conclut-il. À propos du tournage, il ne se souvient que de on dit et d'avoir entendu l'acteur s'adresser à l'une des plaignantes. « Je ne m'approcherai plus, je ne t'embêterai plus. » Mais le garde du corps ne sait rien du contexte. Son travail, dit-il, c'est de rester discret et de protéger l'acteur. Marie Cazadebé, au tribunal judiciaire de Paris, RFI.
En France toujours, le parquet national financier demande la condamnation de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne. Le procureur estime que de l'argent liquide a bien circulé en 2007 dans la campagne présidentielle de l'ancien chef de l'État. Des transactions qui alimentent un faisceau d'indices d'une corruption libyenne qui incrimine Nicolas Sarkozy selon le procureur. Un mot de sport et de tennis avec la tornade et Ala qui continue de faire des ravages à Miami. Cette joueuse de 19 ans totalement inconnue avant ce tournoi a terrassé la numéro 2 mondiale Iga Swiatek. C'était ce mercredi en quart de finale. Elle l'a battue sur le score de 62-75. Alexandra Ehala, 140e au classement, qui bat ainsi une 3e lauréate de Grand Chelem d'affilée.
Je ne sais pas quoi dire, vraiment je ne réalise pas du tout. Je suis sur un nuage, je suis tellement heureuse et tellement bénie de pouvoir rivaliser avec une telle joueuse sur ce grand court. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mon entraîneur m'a dit de courir, d'aller chercher chaque balle, de saisir toutes les opportunités car une quintuple lauréate de Grand Chelem ne te donnera pas la victoire. Ce moment va rester pour toujours dans mon cœur.
It's forever in my heart.
Et elle, les voilà qualifiées pour la demi-finale, cette fois de Ligue de Champions féminine, c'est du football. Les Lyonnaises l'ont emporté 4-1 hier soir face au Bayern Munich. Les joueuses de l'OL affronteront soit Arsenal, soit le Real au prochain tour. RFI, 3 heures passées de 10 minutes, à Lyon et à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.